Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
C'est enfermant pour tout le monde.
Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marque.
Bienvenue.
Son épontre subjectivité et révolution.
Boum. Poudre.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto Rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Sam Boursier.
C'est ce que nous disaient les féministes aussi à l'époque. Oui, vous, les queers, avec les trucs américains, le god, le truc capitaliste, le god, c'est un pénis et tout. Et on a dit non, non, regarde bien, c'est une main. Regarde bien les godes, t'as déjà vu un pénis où il y a les oreilles de lapin qui arrivent sur le clit et le truc qui rentre. Donc c'est une imitation de la main. Et cette idée de dire que finalement, un god, c'est plus une imitation de la main que d'une bite. Je sais pas, mais c'est... voilà.
Cet épisode est riche, complexe, fourmillant, peut-être un peu déroutant pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la recherche en études de genre et ses textes emblématiques. On y croise en vrac Butler, Foucault, Marx, Cixous, Wittig, Solanas, Deleuze, Preciado. On y entend des expressions un peu impressionnantes comme « féminisme matérialiste », post-porn, études genre, agentivité, désidentification, anarcho-queer. Waouh ! J'espère que je viens pas de vous dissuader, ça serait dommage. La pensée de Sam Boursier est un fil qui s'enroule, se déroule, va et vient, qui boucle encore. Bref, qui déroute un peu. Mais elle est aussi limpide, joyeuse, éclairante. Faites-moi confiance, laissez-vous porter par le flot, peut-être bercer. L'écouter peut être une initiation et vous donner envie d'aller creuser un peu partout. Elle peut aussi allumer en vous une étincelle qui vous fera voir le monde de façon radicalement différente. Le god comme une main, le porno comme une technologie, le genre comme un travail. Bref, de penser queer. Un conseil, suivez la poudre sur Instagram. Nous allons partager avec vous toutes les références évoquées dans l'épisode. Et préparez-vous pour la suite du programme. Dans la poudre, c'est Judith Butler elle-même qui poursuivra notre séminaire sur le féminisme et le queer. Restez à l'écoute. Avec Sam Boursier, on a parlé d'université, de travail et de transféminisme. Bonsoir Sam Boursier.
Bonsoir Lorraine.
Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université Lille 3, auteur et militant queer. Et vous et moi, on est nés le même jour, le 30 octobre, à quelques années d'écart.
Ouais. Deux scorpions.
Deux scorpions.
Ascendant scorpion.
Ascendant scorpion.
Il paraît.
Ah là là. Les scorpions sont terribles dans le champ féministe. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages décisifs dans la diffusion de la pensée queer en France, notamment votre trilogie Queer Zone, parue entre 2000 et 2011, et récemment rééditée sous forme d'un énorme pavé aux éditions Amsterdam, ou plus récemment Homo Incorporated, le triangle et la licorne qui pète chez Cambourakis. Vous pensiez, vous respiriez, vous viviez le queer avant même que ce mot ne s'impose dans les milieux militants. Et personne n'est mieux placé que vous pour explorer ses implications dans le mouvement féministe contemporain. Vous prenez avec d'autres l'émergence d'un transféminisme qui est plus qu'un transactivisme, mais plutôt un post-féminisme radicalement transformateur, absolument intersectionnel et résolument anticapitaliste. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je voudrais qu'on commence en abordant un sujet qui m'inquiète et qui me semble assez révélateur de l'ambiance aujourd'hui en France. La tentative de délégitimation des sciences sociales par le pouvoir en place. Mmh. Il y a eu la petite phrase de Macron en juin, le monde universitaire a été coupable. Et puis tout récemment, la demande par deux députés, les Républicains, d'une mission d'information sur les dérives idéologiques dans les milieux universitaires. C'est votre champ, la sociologie, les sciences sociales, qui est particulièrement visée. C'est le genre, c'est le queer, c'est le post-colonial. Mmh. Alors, est-ce que vous êtes inquiet ou pas plus qu'avant ?
Alors, je vais faire une réponse peut-être un peu curieuse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette attaque, elle est pénible, elle était prévisible aussi. Enfin, je veux dire, depuis 20 ans qu'on dit, à un moment donné, il va falloir critiquer. Enfin, il y a un problème avec l'universalisme républicain, il y a un problème avec les minorités en France, il y a un problème avec le racisme, il y a un problème avec l'absence de théorie ou d'études féministes. Bon, c'est pas que... Il ne faut pas se plaindre, mais voilà. Alors après, l'offensive, c'est vrai qu'elle vient d'un régime autoritaire néolibéral qui, normalement, était plutôt branché multiculturalisme. Donc ça, ça sent pas bon. Et en même temps, il y a cette offensive. On voit bien ce que dit Blanquer. D'accord, Blanquer, c'est le secondaire, mais c'est pareil à l'université. Moi, je le vois à un moment donné. Vous savez, les étudiants, quand elles sont arrivées à l'université, finalement, ce n'était pas pour de bonnes raisons. Mmh. Moi, je me souviens, dans les années 20, il ne faut quand même pas exagérer, en 2000, il y a 20 ans, c'est ça, voilà, c'est pour ça que j'avais 20 dans la tête, on s'est dit, bon, moi, je n'étais pas encore à l'université, on faisait des séminaires un peu sauvages, pas loin d'ici, d'ailleurs, au centre gay et lesbien, et un petit peu à l'université déjà, mais on était là en passager clandestin, et on s'était dit, bon, on va faire ces études genre, et là, à l'époque, attendez, tout le monde nous disait, y compris les féministes, des rapports sociaux de sexe, le genre, ça n'existe pas, c'est un truc américain, un truc comme les godes, un peu, on n'a pas besoin de ça, nous, on a les rapports sociaux de sexe, on a l'oppression, donc déjà, il y avait ça, de la part des féministes, qui, c'est vrai, n'avait pas voulu non plus, à l'université, s'institutionnaliser pour des raisons, bon, complexes, françaises, etc. Et donc, nous, on s'est dit, bah, ça tombe bien, on voudrait aussi faire les études queer. Bon, moi, voilà, je me suis dit, on était pour l'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas cette question, on s'est dit, bon, on va le faire. Et moi, je suis quand même à la fac, dans un département d'études culturelles, donc normalement, qui ne devrait pas être rétif à toutes ces choses-là, pardon, et ça ne s'est pas fait. Ouais. Et quand ça s'est fait, c'est parce que l'université prenait des coups de pied au cul, en fait, on va dire, du marché global, pas de l'information, mais de l'éducation, après les accords de Bologne, etc. C'était le début de la privatisation de l'université, avec Pécresse et tout. Et là, il fallait, pour être dans les rankings, que le mot-clé genre soit disponible sur les programmes dans les facs françaises. Qui n'en voulait pas ? Et moi, mon département n'en voulait pas. Parce que moi, je ne suis pas vraiment sociologue. J'ai été formée en France, en études littéraires, à Normale Sup, etc. Donc, une formation plutôt pluridisciplinaire, mais plutôt littéraire. Et ensuite, oui, j'ai fait essayer de faire de la socio à l'école des études en sciences sociales, travaillant sur la télévision. Et c'est là que j'ai rencontré les études culturelles sur les médias, et donc qui parlaient de gens pour aborder la télévision.
C'est vrai que vous arrivez par
ça
un champ...
claque.
Vous arrivez par un champ qui est particulier, qui est très peu connu en France, c'est les cultural studies, donc les études culturelles,
c'est
mais
ça.
On ne le traduit pas parce que ça n'existe pas, et qui s'intéresse vraiment aux objets culturels. C'est vrai que vous étudiez le porno, par exemple, ou les pratiques sexuelles, et c'est de là que dérivent aussi les queer studies qui nous amènent aujourd'hui.
Et qui a ces caractéristiques ? La différence entre les sciences sociales, ou même encore, je ne sais pas, les études littéraires ici qui se veulent, enfin, surtout les sciences sociales qui se veulent positivistes, objectivistes, tout ça, c'est que les cultural studies, les études culturelles, sont des minority studies. Elles ont été faites par des gens, d'abord par des féministes qui, dès les années 70 aux États-Unis, ont dit on vient à la fac, c'est normal, on va regarder comment se construit la science, on va regarder comment se fait l'histoire, etc. Elles ont tout changé. Mais c'était aussi la poussée des black studies, des chicanos, des chicanas qui se sont dit attendez, l'espace universitaire nous appartient, et comme il s'y fait un savoir, un drôle de savoir, en plus qui nous affecte, voire qui nous catégorise, nous pathologise, etc., on va le faire. Bon. Donc ça, c'est vrai que ce sont des études, en fait, qui ont un point de vue assumé minoritaire, et donc avec une épistémologie minoritaire et généralement très féministe. Donc c'est des études, effectivement, très politiques, raison pour laquelle on va vous dire « Ah, mais vous n'êtes pas objectif, vous n'êtes pas positiviste », ce qui est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai.
C'est
des épistémologies différentes. Et après, les études genre sont arrivées aussi, parce que là, c'était... Deuxième coup de pied au cul dans l'université, c'était, mais un peu partout, le gender mainstreaming. Il va falloir introduire le genre. Mais le genre, c'est quoi ? C'est la femme. et l'égalité homme-femme dans les politiques publiques et partout.
Ouais.
Mais ça, c'est une version très appauvrie des gender studies, ouais. voire même, elle peut se faire avec des étudiants qui ne sont pas féministes, mais qui veulent des jobs, par exemple, à l'Europe et tout, sans études féministes. Et c'est le moment où le terme de genre, en plus dans son acception très rikiki, là, si genre égale femme, moi je me lève pas le matin, enfin je suis pas tout ce que je suis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'est aussi... Ça va être là qu'on va avoir un développement des masters genre, mais qui se ressemblent un peu tous, hein, dans un premier temps, un peu de droit, un peu de sociaux. Oui, on va faire, on va promouvoir l'égalité homme-femme au niveau des régions, au niveau des mairies, enfin tout. Et des gens qui ont envie de faire autre chose, évidemment, mais qui se retrouvent dans ces masters-là, qui n'ont rien à voir avec, on va dire, les études genre dans tout ce qu'elles ont pu, ou même la manière dont le genre est un prisme qui va sur toutes les disciplines européennes telles qu'on les connaît, de la sociologie, l'anthropologie, enfin j'en passe, ouais. et des meilleurs. Donc ça, je crois que c'est important de le comprendre. Alors du coup, les queer studies, mais même les feminist studies, regardez bien les programmes dans les facs françaises, ou les black studies, ou les beurre studies, on aurait pu imaginer dans les années 90 que ça s'appelle comme ça, pas question.
Ouais.
Donc moi j'ai des étudiants qui, en fait, voudraient travailler dans ce domaine ou qui voudraient faire des queer studies ou de la théorie du genre, on y reviendra peut-être, et qui ne peuvent pas, et qui souffrent à peu près dans toutes les formations.
Alors, je voudrais quand même qu'on fasse un petit détour historique, parce qu'en fait, c'est important de constater que le mot genre, il y a 25 ans, enfin, au moment où on commençait à traduire Butler en France, plus ou moins, il faisait peur, voilà, comme vous l'avez rappelé, puis qu'aujourd'hui, c'est devenu presque un mot clé, un mot vendeur. Mais le mot queer, il est là depuis tout ce temps aussi. Ouais. Et c'est vous, avec d'autres, qui avez contribué à l'amener en France. Donc je voulais faire un tout petit détour historique pour comprendre en fait l'émergence de ces études queer. On peut dater leur apparition en 85-86 avec le premier programme d'études gays et lesbiennes à New York University. Mm-hmm. Il y a un groupe de recherche un petit peu jumeau qui se réunit au même moment à la Sorbonne. Dans les années 90, il y a les premiers textes de chercheuses américaines comme Teresa De Laurentiis ou Judith Butler qui posent l'idée fondatrice du genre comme performance. Vous les lisez, vous les traduisez, vous les diffusez. Et en 96, vous fondez avec d'autres, notamment Paul Preciado, que j'ai reçu ici, le collectif Zo, qui revendique pour la première fois l'étiquette queer. Ce collectif, il mélange des doctorants, teux, et des militants, teux. Mm. Et pourtant, 20 ans plus tard, contrairement au mot genre, ce mot queer, il n'a toujours pas réussi à se frayer un chemin en fait, jusqu'à l'université. C'est parce que c'est un projet qui est beaucoup plus subversif en réalité.
Je ne sais pas s'il est... On a souvent associé queer et subversif, et moi, je n'ai même pas besoin de ça pour avancer, si vous voulez, sur la question de la théorie queer. Moi, j'ai trouvé, par hasard, j'étais à Camden, à Londres, dans une librairie anarchiste et féministe, qui s'appelait Compendium à l'époque, et je suis tombée par hasard sur Gender Trouble, et puis le bouquin d'Alperine aussi sur Saint-Foucault. Et moi, j'avais biberonné la théorie post-structurale ici en France, Foucault, Lacan, Derrida, Deleuze. C'est pas que j'y comprenais rien, mais honnêtement, ça me parlait pas. Et donc, j'étais pas féministe. Hein. J'ai mis des années à être féministe. Et je trouve ce bouquin, et comme j'étais nourrie de tout ça, ce que Butler en faisait, je me suis dit, ah non, c'est trop. J'ai vraiment tout de suite, j'ai plongé, quoi. Je me suis dit, ah mais ça, c'est pour moi. Et le côté... On appelait ça « out in your face » à l'époque, c'est-à-dire... Parce que « queer », c'est vrai que c'est une injure, et comme on ne la traduit pas, qu'elle est intraduisible, on ne se rend pas compte de la force que ça avait. Dans les années 80, c'était beaucoup dans le retournement de stigmates, la force de l'autonomination, c'est toujours vrai, mais... Et « queer », nous, ici, on l'a traduit, je me souviens d'ailleurs avec Paul Preciado, on a dit « on va traduire ça ». Soit on ne traduit pas, soit on traduit, et quand on l'a traduit, on a dit, ça veut dire théorie trou du cul. Et là, les gens disent, bon, écoutez, vous exagérez.
Ça mais en fait, marché,
ça n'a pas marché, mais c'était quand même, c'était ça. Et c'était quand même des politiques, comment dire, peut-être gays et lesbiennes, des politiques des identités, mais qui commençaient à réagir à un certain figement des politiques, on va dire, gays et lesbiennes, et qui commençaient à être assez assimilationnistes, ou avec une identité figée. Mais en même temps, dans le contexte français, nous, on voulait la politique des identités à l'américaine, comme on nous a dit, parce qu'on a dit, oui, dans le contexte universaliste, on a besoin de ça, de pouvoir dire quelque part, oui, je suis Gwyn, et je t'emmerde, parce que honnêtement, c'est ça que ça voulait dire, et je pense, je peux faire des choses, j'ai le droit d'être partout, d'être dans l'espace et d'être visible. Maintenant, je serai plus circonspect sur les politiques de la visibilité parce qu'elles sont prises en charge bon, par des acteurs qui ne le faisaient pas à l'époque, à savoir, je sais pas, les mairies, l'État, les présidents, les pays, etc. Donc, et puis, il y avait aussi, c'est vrai, cette force dans le développement des paradigmes de genre. Parce que les études de genre, si on dit, moi, des fois, je suis un peu fatiguée, on dit, je sais pas, bientôt, ce sera genre et barreau de chaise, genre et palmier, genre et espace, genre et... comme la sociologie de la violence. Non. À un moment, ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir des paradigmes. Le genre, si on dit simplement le genre, c'est une construction en béton, ce que disent encore d'ailleurs pas mal de constructivistes,
ouais.
Bon, bah alors là aussi, vous pouvez vous jeter par la fenêtre. Nous, ouais. On a entendu autre chose. On nous a dit le genre, c'est de la performance et de la performativité. Donc, ça voulait dire, il n'y a pas de vérité du genre. Ça voulait dire, regarde ce que t'apprend la drag queen. Et ça, pour nous, c'était fondamental.
Pourtant, vous l'avez beaucoup critiqué depuis Judith Butler.
Parce qu'elle n'a pas mis drag queen.
Ouais, ouais.
Et je critiquais jamais Butler pour... Gender Trouble.
Ouais. Mais alors peut-être que pour pas tomber dans la conversation d'initié, surtout
oui.
J'ai discuté avec elle il y a peu, donc je suis aussi tout imbibée de son savoir. En quoi Gender Trouble, donc Trouble dans le genre, ce livre de Butler qui sort, je crois, en 90 aux États-Unis, mais seulement oui. En 2005 en France.
Et c'est pas faux d'avoir poussé pour qu'il soit
ouais.
traduit. Hein.
Ouais. Enfin, ouais. Voilà, 15 ans à être traduit ouais. en France. Alors, qu'est-ce que ça change, en fait, à la compréhension des sexes, parce qu'à l'époque, on disait plutôt les sexes, de dire que c'est une performance. Qu'est-ce que ça change vraiment? C'est-à-dire que c'est un jeu, c'est juste une action
C'est de dire, Butler, elle a influencé par Esther Newton, qui est une anthropologue lesbienne, qui a fait tout un queer aussi, qui a fait tout un travail sur les male impersonators, les travestis, les transformistes, ouais. etc. Et elle part sur une définition du genre comme le théâtre. Alors ça, vous allez me dire, bah oui, les rôles de genre, le théâtre, on peut même avoir des choses comme ça chez Goffman, dans les rôles sociaux, etc. Là où elle est intéressante, c'est qu'elle dit, pour que la féminité existe, elle doit se répéter, c'est le côté performativité, elle doit se répéter et en fait, c'est une imitation sans original. Le genre, il n'y a pas de vérité du genre. C'est que des copies, 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 et c'est une bonne nouvelle. Parce que si vous déployez, par exemple, une féminité, un genre féminin, mais qui n'est pas connecté comme on voulait que ce soit à un sexe dit féminin, c'est vraiment pas grave et ça prouve justement qu'il peut y avoir des discordances entre genre et sexe. Et que ça nous révèle précisément que, par exemple, entre une femme, enfin, la différence entre une femme qui fait la performance de la féminité, une femme cisgenre, on dirait maintenant, et une drag queen, il y a juste une différence de hauteur de talon. Et ça, c'est pas simplement dire, oh, le genre est du théâtre, c'est que ça veut dire, si ça se répète pas et qu'on arrête de penser que c'est la vérité, ça tombe. Mais ça vous libère. Parce que du coup, c'est pas qu'on peut changer de genre comme de chemise, mais ça veut dire qu'on peut performer énormément de féminité et de masculinité, et ça ouvre une prolifération des genres, des masculinités féminines. Dans le contexte à l'époque, c'est pas que la théorie, nous on a vécu quelque chose, vraiment maintenant je me dis j'ai de la chance, c'est l'explosion des identités néo-butch, néo-femmes, c'est-à-dire les lesbiennes masculines, les lesbiennes féminines, une féminité des lesbiennes qui serait encore différente, les drag kings, etc., le SM, le porno, le god, et tout, enfin des pratiques sexuelles différentes. Butler, je veux dire, on peut pas, elle est rien sans cette subculture-là aussi. Donc
ouais.
Il y avait un côté... gender fucking généralisé.
Mmh. Donc vous avez écrit, enfin je vous cherchais un peu parce que vous avez écrit un texte dans Queer Zone qui s'appelle Fuck Butler, qui est quand même assez, qui est volontairement provoquant, où vous questionnez effectivement l'absence du drag king dans sa réflexion, mais on a l'impression aussi que vous lui reprochez justement cette espèce d'aspect philosophe peut-être un peu propre et un peu coupé de ces subcultures-là que vous n'avez jamais vraiment quitté, je crois.
Que Butler ait pas pris le drag-king, c'est pas très grave. Qu'elle soit philosophe, ça me gêne pas. Moi aussi, j'aime bien un jus de crâne philosophique. Que sa première identification soit la philosophie, Je crois qu'on faudrait plus s'identifier comme philosophe, ou même Derrida, il faisait la philosophie ailleurs, et que ce soit la philosophie européenne continentale, je pense que c'est son vrai rêve, si vous voulez, parce que quand même, quand quelqu'un lui a dit, et c'est dans un article de Radical Philosophy, et Judith, dans un dîner après un colloque, tu sais, c'est toi la théorie queer, elle a dit, c'est quoi ce truc? Non, c'est pas moi, et ça lui a jamais beaucoup plu. Ouais. Elle a enfanté un monstre que moi je trouve magnifique, un peu comme les bulldogs français, comme ils sont moches, vous voyez, mais qui sont beaux, mais sauf que c'est pas ce qu'elle est. Et après, oui, s'en éloigner, parce que je crois que c'est plus important pour elle, c'est cette identité de philosophe quand même très pétri, je veux dire, d'hégélianisme, de choses comme ça. Etc. Et après, elle a écrit un bouquin qui, pour moi, défère le genre, défait troubles dans le genre, parce qu'on part dans quelque chose qui est, le genre, c'est énorme, on est vulnérable, et ça nous pèse. Alors là, c'est pas que moi je veux faire dans le wishful thinking, mais c'est que c'est ce que disent les sociologues. Les gens... En ce moment, d'ailleurs, je vois tous mes étudiants qui doivent travailler sur les genres, ils écrivent sans arrêt, on leur demande d'écrire. Maintenant, c'est Bourdieu, la référence, on rêve, quoi. Il y a des normes de genre, elles nous pèsent. Alors, on est au courant, hein. Depuis les années 50, il y a des anthropologues, des sociologues qui disent des normes de genre, puis il y en a qui voudraient qu'elles restent. Et là, nous, on a dit autre chose, on a dit, attendez, on s'en fiche. C'est pas, on s'en fiche, mais c'est... On n'est pas obligé, justement, c'est pas très intéressant de définir pour résister aux normes de genre, ouais, le genre comme une norme. Du coup, l'idée de performance et de performativité, et en plus, nous, on faisait des ateliers de tracking, on était complètement partis, quoi. Je veux dire, enfin,
dans les corps, c'était réel, c'était politique.
Et Butler n'est pas une grande militante, donc c'est ça qui nous sépare aussi, je crois. Puis après, elle est partie à dire la vulnérabilité, puis il y a tout son côté psychanalytique, donc ça nous éloigne. Mais c'est ça qui est intéressant. Et quand Deloretti se dit genre à une technologie, c'est peut-être moins praticable, mais quand même, elle dit un truc, elle dit le féminisme est une technologie de genre, le cinéma est une technologie de genre, parce qu'elle vient des films studies, etc. Et là, on part sur les politiques de la représentation, on dit vraiment. En plus, elles sont vraiment bonnes parce qu'elles prennent Foucault, elles l'emmènent là où il ne nous aurait jamais amené, mais en même temps, elles nous donnent une conception du pouvoir, je vous assure, à l'époque, qui nous a libérés. Parce que si vous passez votre temps, comme le faisaient les féministes radicales, matérialistes, oui, vous les drag queens, vous grimez, vous mettez du charbon comme les enfants pour faire la moustache, vous vous amusez, vous n'êtes pas dans le hardware, vous n'êtes pas dans l'oppression. C'est pas qu'on fuyait l'oppression, que ce qu'on s'est dit. Et ça, c'est très foucaldien, ça vaut ce que ça vaut. Je crois que maintenant, c'est plus compliqué à articuler vu tout ce qui nous tombe dessus. Mais on s'est dit... non, nous, c'est des points de résistance, parce que si on croit que le pouvoir est partout, qu'il est sur les corps, comme le dit Foucault, on va essayer de prendre ces points-là de résistance.
Ouais. En fait, ce que crée le queer par rapport à la notion de sexe, à la notion de genre, c'est cette idée d'agentivité, en fait, je crois, qui vous est chère.
Et que Butler nous a apporté, parce qu'elle, ouais, elle parlait de capacité. Alors bon, il y a traduction, agentivité, puissance d'agir, agency, capacité d'agir, mais elle nous l'a apporté, ça. Donc, je trouve que dans Jane Austen, il y a ça. Après, je trouve qu'il n'y a pas, parce qu'elle part dans la vulnérabilité et tout ça. Et pour moi, la définition de se dire on est vulnérable, les corps à peine vivables, etc., c'est une mauvaise interprétation de la biopolitique, et c'est des critères même qui viennent du PNUD, qui viennent donc de toutes les institutions, on va dire, supranationales, qui sont en train là, de nous mettre le grappin dessus de manière biopolitique. Ouais. Alors, c'était peut-être déjà le cas à l'époque. Nous, on ne l'a pas senti comme ça. Et là, on a eu une espèce de bulle. Les gens disent subversif, moi c'est pas pour. Parce qu'on nous attaque des fois, enfin, moi c'est pas moi le queer, hein, par ailleurs. Enfin, je veux dire, ils sont où le queer, ils veulent juste s'amuser, ils sont subversifs. Non, c'est juste qu'il y avait comme ça une capacité de résistance. Et nous, on s'est protégés à l'époque, justement, des scénarios marxistes en disant non, nous on veut pas faire la révolution, les grands sorts, etc., on va faire de la micropolitique. Et on a, franchement, nous on l'a vécu comme ça, ça a marché sur nous. Ça a marché, on a vu des godes. Enfin, moi, j'ai traduit le bouquin de Preciado, je l'ai vu l'écrire, le manifeste contrasexuel, quand quelqu'un, à un moment donné, le dire, parce que c'est ce que nous disaient les féministes aussi à l'époque. Oui, vous, les queers, avec les trucs américains, le god, le truc capitaliste, le god, c'est un pénis et tout. Et on a dit, non, regarde bien, c'est une main. Regarde bien les godes, t'as déjà vu un pénis où il y a les oreilles de lapin qui arrivent sur le clit, le clit et le truc qui rentre. Donc c'est une imitation de la main. Et cette idée de dire que finalement un god c'est plus une imitation de la main que d'une bite, je sais pas, mais c'est voilà.
Et puis il y a cette idée que de technologie du genre qu'on peut complètement prendre pour soi, rejeter, mettre de côté,
aussi,
récupérer.
Parce que le féminisme était très technophobe, et il l'est encore.
Ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs, je trouve ça intéressant que vous arriviez au God, parce que je voulais aussi qu'on explique à quel point les porn studies, qui est un champ que vous avez aussi beaucoup exploré, qu'on retrouve beaucoup dans Queer Zone, c'est important, notamment pour la pensée féministe. Je pense que ça peut paraître peut-être antinomique à certaines personnes qui pourraient associer pornographie. Bon, voilà. Mais en quoi c'est intéressant d'observer les pratiques sexuelles, notamment la pornographie ou encore le BDSM que vous avez beaucoup observé quand on veut avoir une réflexion féministe?
Moi, j'observe pas beaucoup, je pratique beaucoup. Hein. Donc le BDSM, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai bien pratiqué aussi parce qu'à l'époque, le BDSM justement était très fort dans les milieux lesbiens. Anglo-saxon, on va dire, très codifié, et je pense qu'il coïncidait avec justement toute cette réflexion sur le pouvoir et l'érotisation des rapports de pouvoir et une vision assez réaliste du pouvoir aussi, qui n'était pas, oui, ah, les femmes sont... Enfin, bon, je caricature, mais quand même, en France, il y a eu le féminisme de la différence, un féminisme très essentialiste, l'idée que... Enfin, Antoine Fuqua, c'est ça, la féminologie...
C'est celui qui est resté en France, Wittig est parti aux États-Unis
et qui est encore là, qui est encore là. Moi, je sais qu'il y a des étudiants, ils me racontent qu'on leur dit, à Paris 8, que le queer, c'est... le féminisme de la différence, c'est Wittig, Deleuze et Lacan, qui étaient queer avant nous. Enfin, il faut se calmer, quand même. C'est pas possible. Donc, du coup, oui, cette histoire de pornographie, moi, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Confusément, je lui ai dit, ah, il y a un truc à faire. Et puis surtout, on se disait, bah, on n'a pas de pornographie pour nous, ce qui est quand même... Et la pornographie peut être féministe. Donc, il y avait ces intuitions un peu comme ça. Et puis vraiment, mais je ne sais pas pourquoi, c'est en voyant Baise-moi de dépendre, qui est quand même un film straight. Puis en plus, à l'époque, elle était très straight. Alors, c'est, enfin, bon... Même si la fin, on peut penser qu'il y a un truc lesbien. Enfin, qu'importe. Et là, je me suis dit, ah non, non, là. Le fait qu'elle prenne les codes, on va dire, du porno, pour justement, déjà faire le film, tourner une scène de viol. Et pour moi, baise-moi, ça a sonné comme queer. C'était un retournement, quoi. C'était, ouais, tu baises-moi, ben baise-moi. Et là, je me suis dit, waouh. Et on est parti sur le post-porn. Et moi, j'ai vraiment... C'est ce truc que j'ai inventé, je crois, dans ma vie, c'est ça. C'est cette histoire de post-porn, en allant voir le film... censurer le lendemain, et on se dit, mais attendez là, non, il faut critiquer tout le régime de la pornographie moderne, parce qu'on voit très bien qu'il est hyper hétéro, que c'est que des histoires de bites qui rentrent dans des vagins, c'est pas possible. Donc, par contre, ça veut dire qu'on peut développer une autre pornographie. À l'époque, on utilisait beaucoup les préfixes post, ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose pour le post-féminisme, par exemple. Parce que c'est... Mais en tout cas, ça a marché pour le post-porn. Enfin, moi, j'ai fait ça de manière assez cérébrale. Mais, encore une fois, il y avait une culture de disponible.
Et puis, ça a créé une réalité.
Dans les festivals, qui sont très formateurs, il n'y a pas mieux qu'un festival pour apprendre des choses, pour rencontrer des gens, pour produire des subjectivités différentes, pas seulement se trouver soi-même, etc. Il y avait des films des États-Unis qui arrivaient, qui étaient très BDSM, effectivement, qu'on disait plutôt SM. Et c'est comme ça que ça, de fil en aiguille, que c'est parti, et qu'après, c'est vrai, le post-porn a marché, enfin, essaimé, notamment en Espagne et dans les pays plutôt d'Amérique centrale et d'Amérique latine, avec quelque chose qu'on connaît bien dans le féminisme, des ateliers. Et là, ce n'était pas des ateliers où on prenait, on se regardait la chatte, où on faisait de la masturbation, on apprenait et on partageait des expériences et des trucs collectifs. C'était des ateliers post-porn où les gens faisaient des performances et la performance était centrale. Mais ça, c'est un héritage féministe aussi, la performance.
Ouais.
Donc, tout, je ne sais pas comment vous dire, c'est tout s'assemblait. Ouais. Tout fonctionnait.
Mais tout boucle toujours, tout avec vous. Enfin, c'est... Je sais pas, ce week-end, j'étais dans votre travail et j'arrêtais pas de reboucler. J'essayais de sortir, de travailler sur Scum Manifesto parce que je dois faire un autre truc pour ça. Et en fait, je retombais sur vous tout le temps.
Mais le Scum, moi aussi, ça nous intéresse en ce moment. Bah, hein. C'est normal, c'est logique.
Alors pourquoi? Pourquoi ça nous intéresse? Alors le Scum Manifesto, peut-être donc pour resituer, donc c'est Valérie Solanas, ouais. C'est un livre qui sort en 68. Elle est surtout connue pour avoir tiré sur Andy Warhol, mais c'était en fait surtout une grande écrivaine dont il ne reste qu'un seul texte, qui est un texte misandre où elle appelle tout simplement à se débarrasser des hommes pour vivre dans une société meilleure. Pas les gays.
Pas les tapettes, pas ceux qu'elle peut exploiter. Pas... Enfin, non, je crois que l'intérêt, c'est parce que... les critiques qu'on doit faire, qu'on doit adresser justement à la théorie queer de la première vague. Donc moi, j'ai beaucoup profité. Hein. Donc Butler, Deloretis, Sedgwick, enfin des gens dont on parle peut-être moins, c'est qu'elle était très théorique, elle était très blanche. Et ouais. elle laissait complètement de côté. Alors, elle n'était pas matérialiste, pas marxiste. Et l'économique, la précarité, le racisme, la colonialité, passer à côté, quoi. Ouais. Et donc, je crois que maintenant, enfin, moi, le transféminisme, hein, vraiment en Italie et en Espagne, c'est une volonté de se défaire du terme impérialiste anglais queer. C'est synonyme.
Ouais.
C'est continuer les politiques queer, mais ne plus les appeler comme ça. Et puis aller. Et c'est vrai qu'avant, on disait les queers, c'est pas des marxistes, des matérialistes. C'est vrai, on est. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de là non plus.
Parce qu'il y a une rupture nette avec les féministes matérialistes aussi à l'origine.
Oui, mais nous, on pensait qu'on allait s'entendre avec elles. On est allé chercher Nicole Culmady, on lui a dit. Mais puisque moi, Wittig, j'ai traduit Wittig. Moi, tout de suite, je me suis dit, Wittig, non, Wittig, c'est trop, quoi. L'hétérosexualité comme régime politique, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Cette technique de désidentification que nous, on a repris de chez Wittig, parce qu'elle, elle disait, bon, les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles n'appartiennent pas à la classe des femmes, ce qui était une version, on va dire, matérialiste, marxiste du truc. Et nous, on a dit, non, c'est parce qu'aussi, on peut se désidentifier. On n'est pas nécessairement des femmes. On peut devenir une femme, pas nécessairement à partir d'un sexe biologique. On était déjà beaucoup dans les trucs trans, en fait. Et donc, pour nous, Wittig était central. Et donc, on n'était pas non plus si éloigné que ça de la pensée matérialiste en soi. Mais ça n'a pas marché, le truc. Par contre, il y a eu un tournant, c'est vrai, matérialiste, marxiste, je ne sais pas, dès les années 90, avec les premiers forums, les grands forums sociaux, je ne sais pas, celui de Gênes, mais même ceux qu'il y avait eu à Paris. Et là, il y a... et c'est plutôt, c'est vrai, des anarcho-queer ou des... Bon, le mouvement autonome italien, des gens qui sont... oui, qui étaient plutôt marxistes ou matérialistes, mais aussi deleuzéens, mais aussi négristes, tout en lui mettant la claque qu'il fallait lui mettre, et qui ont dit, non, là, ils ont compris ce que nous, moi, j'avais pas venu voir dans les années 80, j'ai pas compris que Mitterrand, enfin tout ça, c'était les SOSDEM, c'était néolibéralisme, j'ai pas compris ça.
Ouais.
Et eux, ils ont dit attention, là, ils sont en train de nous prendre la subjectivité, ils vont nous mettre au boulot d'une manière, ouais. Ils l'ont vu tout de suite. Et c'est pour ça, moi, que je suis allée travailler en Italie avec eux, là, pour la licorne, parce que moi, en fait, c'est des trucs un peu d'intérêt. Et moi, je suis arrivée à un moment où il y avait une promesse dans la vie. Enfin, je me suis dit, bon, je vais aller à la fac, je vais avoir un boulot, je m'en fous d'être propriétaire. Mais enfin, l'horizon n'était pas bouché. Et là, je suis arrivée avec des queers, enfin, en Italie. Parce que l'Italie, c'est terminé le filet social, c'est terminé la sécu, c'est terminé le job. Tu fais un doctorat, tu n'auras rien dans la vie. Tu vas pouvoir mettre des prospectus à 2 centimes dans les boîtes aux lettres. Et j'ai eu aussi des relations avec des gens comme ça, qui n'avaient pas de job et tout, qui se sont dit, bon, bah... On part de nos besoins, on va travailler sur le travail, sur le capitalisme cognitif, sur ces nouvelles formes de travail, sur la promesse. Et là, ils m'ont appris même à dénaturaliser le travail, ou même la morale qu'on a du travail. Et c'était d'autant plus fort que ben, des gens qui disent « on va faire la grève du genre, on va faire la grève », alors que comment on fait la grève quand on est prêt?
Alors, je vais qu'on s'arrête là-dessus parce qu'on est en train d'arriver.
Des trucs.
Vous déroulez tout seul et j'arrive plus à suivre mon film, mais ça n'est pas grave parce que c'est passionnant. Et justement, cette idée de genre comme travail, je la trouve mais tellement intéressante. C'est-à-dire que c'est pousser plus loin encore Butler quelque part, ou alors prendre un autre chemin.
C'est pas contradictoire.
C'est pas, voilà, c'est une performance, mais c'est une performance finalement qui nous amène une forme de rémunération. Quand je performe ma féminité,
voilà,
j'obtiens, je sais pas, un mari, un loyer, un travail, je deviens hôtesse d'accueil, etc.
Bon, ce que savent très bien les travailleuses du sexe.
Ouais. Moi j'ai été hôtesse pendant quelques années et je vois très bien, vous en parlez d'ailleurs, je vois très
bien.
Oui,
parce que mes étudiantes sont sans arrêt hôtesses, donc elles me racontent.
Je gagnais de l'argent à mettre des talons. Je me suis déformée les pieds à vie à faire ce travail.
Et on vous a acheté les...
Ouais, mais j'étais bien payée. J'étais hôtesse Marlboro en plus. Je vendais des cigarettes.
Ça paye mieux que les bagnoles, alors.
Ouais. Non, mais tout ça pour dire que cette idée de du genre comme travail, ouais. je ne l'avais jamais rencontrée en fait, avant de me plonger dans votre livre. Et donc, ça veut dire que la conséquence, c'est qu'on peut aussi faire une grève du genre. Et ça peut être un moyen de résistance politique, de contestation politique. Comment on fait ? Est-ce que ça a déjà été pratiqué quelque part ? Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est vraiment une solution réelle de résistance politique ?
Bon, déjà, non, on peut le faire. Quand on décide de faire la grève de la performance de la féminité que vous venez de décrire, ça, on peut le faire même dans sa tête. Bon. Et c'est aussi, c'est là où, parce que ce qu'apprend la performance du genre selon Butler ou la grève du genre, c'est de dénaturaliser le genre et donc de bien être conscient que tout ça c'est une performance et que ça rentre dans des échanges économico-sexuels, voilà, importants. Après, là, ce qu'ils ont apporté, je trouve, les Italiens, c'est les collectifs comme celui de Bologne qui s'appelle Laboratorio Smascheramenti, c'est de se dire, mais attendez là, parce que c'était le moment aussi où les genres, même les genres queer, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, un gay qui fait quand même super queer, avec des ongles comme ci, comme ça, qui serait bien de l'avoir pour animer notre bar, ou, etc., on va le prendre. Ou l'autre jour, j'étais chez le roi Merlin et je voyais une bouche tatouée, les piercings, et je me disais, elle a été recrutée pour ça. Comment on commençait aussi à exploiter les genres dits queer ou les genres non normatifs, etc. Alors les gens vont dire, ah ben oui, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, mais combien vont être recrutés ?
Précarisation.
Et aussi, la personne qui va, justement, je le cite, c'est un ami à moi qui a travaillé rue du Faubourg Saint-Denis, dans un bar, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin qu'importe. Et donc il était recruté pour ça, pour sa performance de genre queer, voilà. Mais n'empêche, il se prenait toute l'homophobie dans la gueule, toute la transphobie, parce qu'on ne savait pas, etc. Et puis quand même, le patron qui était strict, il disait « tu pourrais te faire les ongles mieux », etc. Enfin, et il était super mal payé. Donc là, on a vu qu'on commençait à exploiter ce type de performance de gens. Donc c'est ça la mise au travail, et en plus, avec des boulots de merde. Puisque là, les gens gagnent rien, quoi, plus rien. Et qu'on leur dit, bah, t'es déjà bien content d'avoir un job. Donc c'est venu d'une réflexion de personnes qui, en plus, étaient des étudiants ou des gens même qui avaient un doctorat, ou etc. Et en plus, à qui on disait, bon, bah, maintenant, il va falloir travailler pour trouver un travail. Donc tu vas devoir travailler ton réseau. Ils ont fait une liste de tout ce qu'on leur demandait pour ne pas trouver de boulot. Donc ils se sont dit, bon, on va se faire... On va inventer des techniques, au moins, pour, par exemple, je réponds plus au téléphone. Des trucs bêtes. J'arrête, je fais la grève du sourire, je fais... Et les gens disent, c'est rien, tout ça, c'est pas... Et en fait, si.
Ouais.
Si. Ils ont dit, on va faire la grève du genre. Alors, ils vont pas arrêter, on va dire, la machine néolibérale, mais ils sont allés faire aussi, par exemple, des performances devant des banques qui disent, oui, le management de la diversité, on va recruter les trans, on va recruter les queers, c'est génial et tout, et qui sont les premiers, en fait, à les mettre au travail dans des conditions épouvantables et qui sont responsables de la culture de la merde néolibérale dans laquelle on est.
Et on peut se demander si ça va pas être... dans Homo Incorporated, vous montrez bien comment les identités gays et lesbiennes ont été institutionnalisées, sont devenues une espèce de marchandage de droits et d'intégration.
Le droit mène à ça.
Voilà, le droit mène à ça. Mais je me demande si l'étape suivante, justement, ne va pas concerner les personnes trans. Là, j'ai vu qu'en Argentine, il y a un quota de 1% qui a été fixé dans les administrations. Et alors, quand j'ai entendu de personnes trans recrutées dans les services publics argentins, donc l'information, quand je l'ai entendue, moi, m'a fait me réjouir. Je dis, ah bah c'est cool. Oui. Mais après vous avoir lu, je me dis, ah bah non, en fait.
Bah, disons que c'est le piège, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez des entreprises qui se disent, on va faire du management de la diversité, on va recruter des trans, d'abord, ils vont recruter très, très peu. Il y en avait déjà dans la mode qui se faisaient très, très maltraiter. Hein, faut dire ce qu'il y a. Et c'est aussi parce que il y a toute une économie de la discrimination qui est pratiquée aux États-Unis depuis très très longtemps, depuis les années 60, avec Gary Becker, donc, qui est le théoricien du capital humain, et qui d'ailleurs a le prix Nobel pour ça, et qui fait l'économie de la discrimination dans le sport, partout, etc. Et même Hillary Clinton, quand il faisait des déclarations, moi j'avais entendu, ça commençait à mettre la puce à l'oreille, à l'OCDE, partout, oui, il faut recruter les personnes trans, il faut recruter les gays sont nos amis, pourquoi ? Parce qu'on voulait les mettre au travail, et parce qu'on savait aussi qu'à partir du moment où vous reproduisez, vous êtes reproductif et productif, vous entrez dans la sphère du travail, mais c'est pas n'importe qui. C'est les gays blancs, qui se marient, enfin les gays, les lesbiennes plutôt privilégiées, c'est un peu la classe moyenne qui monte, qui s'assimile et qui évidemment sont contents d'être productifs et reproductifs. Mais ça, c'est de l'inclusion meurtrière parce qu'elle laisse de côté, même en pourcentage, plein de gens, et notamment les trans, les personnes racisées, les TDS, les handis. Ah, les handis, si, on les prend aussi, on les met au travail.
Alors, il y a des quotas aussi. Ouais,
allez, allez, allez. Ah, mais il faut qu'ils bossent. Ouais, hein. Ouais. Ah, après, on va dire, ah non, par contre, l'accompagnement sexuel, non, c'est niette pour vous. Donc, les vieux trucs sur, d'abord, vous n'êtes pas des vrais hommes, on vous ferait mieux de vous stériliser, on vous a stérilisé, et finalement, vous... Bon. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre que, bah oui, le management de la diversité, ou que les mairies, ou comme la mairie de Paris avec son pinkwashing, c'est un problème. Donc, forcément, c'est pour ça qu'on est obligé de... Bah, c'est pas qu'on veut critiquer forcément qu'il y ait des homos, voilà, qui vivent bien, qui vivent mieux, etc. D'accord, mais eux se retournent aussi contre les autres. À New York, maintenant, le village... En tout cas, le West Village, par exemple, où il y a des condos avec beaucoup de couples de gays, avec des enfants, etc. C'est les premiers à demander de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité. C'est eux qui ont demandé la fermeture d'un bar, un pauvre bar, le Boots and Saddle, où il y avait du lip-sync, du karaoké, avec des drag queens. Ah non, on ne veut pas que nos enfants voient ça. Mm. C'est eux qui, quand ils se marient, s'identifient comme des personnes de même sexe. De même sexe. On peut dire, ah oui, nous, on est deux butches, on est... Non, non. Donc, tout ce qui est, non pas transgression de genre, mais richesse de culture de genre, etc., terminé. C'est fini. Mm. Mais d'ailleurs, ils s'identifient comme des hommes et comme des femmes. Mm. Combien... Moi, j'entends beaucoup, même d'amis, qui
mon
disent...
Mon mari, ma femme.
Ma femme. Mm. Mm. Bon, ouais. Alors, le mariage, ça, c'est clair. Bon, faire des enfants, c'est autre chose, mais... Et c'est là, on voit vraiment, voilà, qu'il y a... Et d'ailleurs, il y a des agendas différents. Enfin, je veux dire, l'agenda des droits et des bons homos, et qui devient homonormatif, mais volontiers raciste aussi, y compris en France, par exemple. Là, qu'est-ce qu'ils font, les homos, quand ils vont à la mairie de Paris ou quand ils vont à la DILCRA? Les groupes officiels, ils passent leur temps à dire, en gros, quoi? Nous, maintenant, on est les bons communautaires. Mais vraiment, on se fait agresser. Hein, et on se fait agresser par qui, dans la rue? Par les Arabes. Enfin, ils sont français, hein, mais par les Arabes musulmans, sexistes, homophobes, etc.
Ça, c'est le mot nationalisme, c'est quelque chose qui a été très, très bien décrit, c'est... et qui est aussi d'ailleurs exploité par le Front National, par l'extrême droite française.
Mais oui, mais pas que, c'est ça le problème. Mais pas que.
Mais je trouve ça intéressant. On a reçu dans La Poudre Aurore Coquelin, qui a écrit un livre sur les révolutions féministes, qui est vraiment intéressant, où elle montre que dès l'instant où le féminisme sort du MLAC et des avortements clandestins et des actions fortes, oui, etc., et devient gouvernemental, en fait, s'institutionnalise, oui. Il perd, en fait, toute sa force, oui, révolutionnaire, logique. Et il se fait apaiser et dompter, et on arrive aujourd'hui à Marlène Schiappa.
Oui.
Et donc, je voulais quand même arriver à cette notion de transféminisme.
Oui.
Donc, vous nous l'avez bien expliqué. Donc, c'est en fait juste une transposition du mouvement queer en Europe, parce que je n'avais pas forcément compris, une espèce de traduction
pas
du
que,
queer.
Ça, c'est un des aspects. Après, c'est aussi comment il y a des personnes trans qui développent un certain type de féminisme, comment elles impactent le féminisme. Il y a plein de choses. Mais c'est pas si...
Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que dans cette idée de transféminisme, en vous écoutant parler, on voit bien qu'on arrive à recouper les discriminations de genre, de sexualité, les discriminations raciales, les discriminations économiques, les discriminations validistes, et que finalement, vous avez réussi à traverser tous les champs de la société, y compris même la migration. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a encore le mot féminisme dedans.
Oui.
Et je trouve que, finalement... Moi, ça me paraît évident que le féminisme embrasse tout ça.
Oui.
Mais comment l'expliquer à quelqu'un qui viendrait dire « Mais ça n'a rien à voir, les droits des personnes racisées ou des migrants, ça n'a rien à voir avec le féminisme. »
Si, parce que le féminisme... Il y a Vitti, qu'à un moment, elle disait « Le féminisme, on a pris ce mot-là, on aurait peut-être dû en prendre un autre. » Si, ça a à voir, parce que le féminisme, même le féminisme intersectionnel, en France, on nous rebat les oreilles avec l'intersectionnalité, mais en fait, le féminisme intersectionnel, il brasse déjà ces questions-là.
Mais oui.
Et parce qu'il n'est pas réformiste, parce qu'il ne fait pas des silos LGBT, la soupe alphabétique, là. Dans la soupe alphabétique LGBT, qu'est-ce qui manque? Il n'y a rien pour couleur, il n'y a rien, il n'y a pas de R pour racisme, il n'y a pas de P ou de T, des S pour
pute.
Voilà. Il y a pas, mais le féminisme, enfin, les féminismes radicaux, qui sont des féminismes qui veulent transformer la société, pas la réformer. Et ça, c'est une vraie opposition dans toutes les politiques. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des réformistes qui vont dans les politiques de la respectabilité, dans l'assimilation. Ça vaut pour les politiques féministes, ça vaut pour les politiques gays et lesbiennes, ça vaut pour les politiques trans, ça vaut aussi pour des politiques noires. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a des noirs aux États-Unis qui ont choisi, bon, ben, voilà, on leur a dit, vous allez faire partie de la classe moyenne, vous serez maire d'une ville, etc. Mais Barack Obama, c'est ça. Enfin, excusez-moi, quoi, je veux dire. Hein. Il commence à trouver fatigant les Black Blocs. Il trouve fatigant Black Lives Matter. Il trouve... Enfin, quand même, c'est ça. Donc, c'est logique, quelque part, que si le féminisme, qui est une pensée, finalement, des rapports de pouvoir et de transformation de la société, et qui, dans les années 60, dans les deuxièmes vagues, travaillait aussi avec des femmes trans, aussi... était anticolonial, anti-impérialiste, anticapitaliste, etc., il n'y a pas de raison d'abandonner le terme de féminisme. Mais c'est vrai que sémantiquement, ça peut paraître paradoxal, mais en même temps, je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'on ne peut rien faire de tout ça si on n'est pas féministe. Et c'est important de le dire, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'études genre s'il n'y a pas d'études féministes. Et moi, je vois les étudiants, on ne les laisse pas travailler ni les études féministes, ni la théorie féministe. Il n'y a pas de théorie queer sans féminisme. Et ça, c'est important, parce que Butler, on peut la critiquer, Delarity, ce sont des féministes. Donc, je crois que c'est pour ça que le terme, finalement, il est si important, et que les gens dans les milieux queer et transféministes, et dans les collectifs qui ont un agenda quand même très différent du féminisme ou des politiques LGBT institutionnelles, la première chose, c'est le féminisme. La matrice, c'est le féminisme. Et le féminisme intersectionnel, parce qu'on dit toujours, oui, Kimberly Crenshaw, c'est génial Kimberly Crenshaw. Mais bon, c'est pas un hasard aussi si on veut donner une origine dans un texte qui est un texte de droit
juridique
et de legal studies, qu'on nous on fait pas. Parce qu'elle, elle fait la critique du droit.
Ouais.
Mais en fait, le Combahee River Manifesto, c'est années 70, c'est déjà le féminisme intersectionnel. C'est un projet épistémologique. C'est un projet qui dit, vous savez quoi, il y a des inégalités épistémiques. On ne nous laisse pas produire le savoir. On revient à notre conversation du début.
Ouais.
Qui dit, vous savez, le même et l'autre, ces histoires-là, ces histoires des gueules, c'est le dualisme corps-esprit, notre bordel cartésien capitaliste. Non. Et elles ne sont pas réformistes.
Ouais.
Alors, donc c'est des projets, c'est quoi ça, tout ça, c'est ce qu'ont en commun les minorités qui n'ont pas trop le choix d'ailleurs d'être intersectionnelles. Ouais. Parce que,
mais c'est ça, je vous aviez écrit, vous aviez publié un très beau texte, je crois que c'est dans Libération, quand on fêtait l'anniversaire du massacre d'Orlando. En rappelant qu'il est quand même, qu'on a tendance à blanchiser et à gayiser. C'est cette boîte de nuit de Floride un acte homophobe a été commis, un acte terroriste homophobe, j'ai envie de dire. Oui. Et donc on disait toujours une boîte gay. Vous êtes venu rappeler que c'était une boîte où il y avait principalement des femmes trans latinas. Donc il y avait aussi de la transphobie, il y avait aussi du racisme, il y avait aussi du sexisme. C'était pas de l'homophobie en réalité, c'était pas que de l'homophobie. Mmh. Et vous terminez ce texte en disant finalement le meilleur emblème de notre mouvement, c'est pas le drapeau, c'est la licorne. Et c'est une façon de rappeler aussi qu'il y a toute cette intersection d'identité dans le mouvement, surtout dans l'activisme queer, qui doit rassembler beaucoup plus finalement de femmes trans latino que finalement d'hommes gays blancs, quoi.
Non, et puis c'est surtout, alors après, faut pas idéaliser le transféminisme ou ce que pourrait devenir le queer ou l'agenda queer. Je crois que franchement, les gens qui réussissent ce que la théorie queer ou même le mouvement queer du début a raté, c'est les queer of color qui le font. Au Mexique, ceux qui sont aux États-Unis, il y en a beaucoup aussi, c'est pas trop traduit d'ailleurs, et aussi au Brésil, etc. Mais pour l'histoire du drapeau, c'est vraiment important. Parce que Rainbow, pourquoi pas? Bon, le mec quand même qui a fait le truc Rainbow, c'était un militaire, un vétéran, donc bon. Au bout d'un moment, il fait un drapeau. Mais le drapeau, quand on l'a eu la première fois, c'était ironique. C'est-à-dire, c'était pratique aussi qu'il y ait un drapeau sur... On a rêvé qu'il y ait des lieux commerciaux, évidemment, qu'on puisse aller prendre des verres, que quand on arrive dans une ville... Bon, c'est un truc assez urbain aussi, bon. Mais tout d'un coup, ça devient un drapeau nationaliste, avec des gays... Alors, on n'a pas trop eu ça en France, mais des gays, des lesbiennes, des trans qui veulent rentrer dans l'armée, qui disent qu'ils sont prêts pour la guerre, qui sont prêts pendant la guerre du Golfe, qui sont prêts pour aller détruire les cultures sexuellement retardées arabes, avec ces gens qui jettent les homosexuels depuis les toits, etc. Alors ça va pas du tout là. Quand le drapeau devient un drapeau nationaliste, il est temps que la licorne chie le drapeau. Et d'ailleurs, elle ne chie pas. Elle le pète. Et d'ailleurs, comme il y a Gloria Saldúa, le rainbow, c'est un arc-en-ciel. C'est quelque chose qui doit rassembler les gens. C'est pas, sans faire de métaphore mièvre, c'est pas un drapeau. Donc il faut se décoller de cet imaginaire homonationaliste, exceptionnaliste, raciste.
Ouais, ouais. J'ai encore tellement de questions à vous poser, mais il y a une question qui me semble importante, puisqu'on a parlé de transféminisme et donc de transactivisme. Récemment, on a vu monter un peu partout dans le monde, notamment anglo-saxon, mais ouais. Ça contamine la France, une pensée transphobe assez marquée dans le mouvement féministe, avec des féministes, j'ai envie de mettre des guillemets quand même, qui s'imaginent que les femmes trans, que les personnes trans n'ont pas leur place dans le mouvement féministe. J'ai interviewé Karine Espinera récemment à ce sujet, qui estimait que c'était en fait l'espèce de politisation progressive des personnes trans, notamment des femmes trans qui avaient dû surmonter notamment la psychiatrisation et pas mal d'obstacles pour arriver à ce niveau de conscientisation politique qui engendrait ce réflexe de rejet. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Est-ce que vous en avez une autre ?
Bon, alors c'est sûr qu'il y a un phénomène de backlash, quoi. C'est-à-dire que voilà, les politiques trans payent justement quand même un peu leur succès, on va dire, ou leur présence. Moi, si vous voulez, je crois qu'il faut remettre ça un petit peu en perspective. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que les TERF, qui sont quand même nettement moins structurés en France, c'est une femme féministe cis, genre, qui a inventé ce terme de TERF pour dire une chose très juste. C'est que les féministes radicales, donc les RATFAM, donc le RTERF, elle a mis devant trans exclusionary pour dire, attendez, il y a quand même, y compris dans les féministes radicales, des féministes radicales qui ne sont pas transphobes. J'aime pas trop cette rhétorique de la phobie, etc. Je trouve qu'elle ne fait pas trop avancer, mais voilà. Donc ça, c'est très intéressant, parce que les TERF... Bon, outre la violence, etc., etc., et notamment déjà comme Charlotte Fries, par exemple, c'est quand même des gens qui déjà nous échiaient, nous les queers, en disant qu'on était des hommes, qu'on se prenait que les butch étaient des hommes, qui étaient contre un peu toutes ces histoires de genre ou de genderfucking, etc. Donc, il y a une espèce de constance. Et les TERF, justement, leur problème, c'est qu'elles trahissent même, on va dire, la pensée féministe radicale si elles racontent qu'on doit définir le sujet politique femme par le sexe biologique. Bon, la plupart des féministes radicales, d'abord, sont radicales, c'est-à-dire qu'elles veulent une transformation systémique du monde, une révolution, etc. Alors, c'est vrai que des fois, elles ont eu tendance... notamment avec la première vague, bon, avec des gens comme Dworkin, avec des gens comme... Mais même ici, à dire, voilà, l'homme, c'est l'ennemi principal. Enfin, une vision trop homogène, en fait, de la masculinité. Parce que la masculinité et les hommes, c'est pas la même chose. Et puis, les hommes ne sont pas tous logés à la même enseigne au niveau de l'oppression, notamment quand ils sont racisés, etc. Mais là, elles se prennent les pieds dans le tapis. Parce que, en fait, les féministes radicales... C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de dissocier même TERF, les RATFEM, elles sont... pour l'abolition des genres, alors peut-être pas avec le même scénario des queers et des transféministes, qui eux font quoi ? Ils débordent la différence sexuelle avec une prolifération de corps, de masculinité et de féminité différentes. Voilà. Donc c'est une manière, un scénario d'abolition, mais par la prolifération, on va dire. Donc si l'idée, c'est d'abolir justement cette différence sexuelle, cette fiction de la différence sexuelle, cette idée qu'il n'y a que deux sexes, que deux genres, il n'y a que les hommes et les femmes, elles sont complètement
collées. Donc,
mais bon, ça, c'est pas pour les détruire simplement théoriquement, mais c'est que politiquement, ça tient pas deux secondes. Et que même des gens comme Dworkin, qui étaient contre le porno, qui étaient contre plein de choses, etc., qui étaient contre... Elle a dit, mais les trans nous apprennent ça. Voilà. Donc, et en plus, maintenant, on sait, je crois qu'il y a une réaction que là, je tiens à dire ça aujourd'hui, c'est que il faut ne pas, les récits d'exclusion là que génèrent les TERF, c'est pas qu'on en parle trop parce qu'ils existent, mais il faut voir que les féministes, y compris dans les années 70, et les femmes trans ont toujours travaillé ensemble. beaucoup. Il y en a des connus, Sandy Stone, il y en a même une qui, dont j'oublie le nom, Elliot, je ne sais plus son prénom, qui travaillait au Daughter of Bilitis, qui était la première association de lesbiennes. Elle a appris le féminisme là, elle leur a apporté des choses. Et c'est vrai que les femmes trans ont apporté beaucoup de choses sur la question de la santé, évidemment, par l'emprise des psychiatres, des médecins, etc. Donc, et à l'époque aussi, elles ont été attaquées. Et il y a eu des féministes de Daughter of Bilitis, il y a eu des féministes à Olivia Records, qui était un collectif de lesbiennes qui avait embauché Sandy Stone, pour les défendre. Je crois qu'il faut qu'on... Faut pas, c'est pas pour faire une mise en perspective historique, il ne faut pas perdre de vue ça. Qu'il y a, il y a des échanges entre les féministes et les trans, et les femmes trans et les hommes trans, depuis très longtemps. Et que par ailleurs, les terres qui n'osent pas attaquer les mecs trans, ben, elles, là encore, elles sont à côté. Parce que ce que fait vraiment... je trouve la culture trans de très très fort, c'est qu'elle produit un max, un énorme quota de mecs féministes ou d'hommes trans féministes, beaucoup plus que la culture straight. Et ça, elle ferait bien de s'en souvenir. Donc, c'est pas que les terres, ça me... Moi, j'essaie de trouver un moyen d'en parler autrement. Après, ce qu'elles font, c'est très violent. Essayer de criminaliser, par exemple, en ce moment, d'aider des personnes qui se détransitionneraient et de dire « Vous devez attaquer les médecins qui vous ont donné les traitements hormonaux, qui vous ont donné les bloqueurs de puberté, etc. » Ça, c'est grave, parce que là, elles sont en train... Évidemment qu'il faut lutter
Elles s'appuient sur deux, trois faits divers
voilà. Pour Mais essayer en France, de... Ouais. En France, il y a des gens qui font ça. C'est la SOFEC. En ce moment, Haro sur l'enfant trans et l'enfant intersexe, parce que finalement, c'est lié. La SOFEC le fait très bien, c'est-à-dire la société savante, là, qui continue, en fait, d'imposer des parcours de transition complètement délirants et violents aux personnes trans. Donc là, je trouve qu'il faut les attaquer, et ça, Foucault nous l'avait bien dit, de toute façon, le contrôle, c'est sur les femmes hystériques, les populations, l'enfant et la famille qui deviennent panopticon. Et c'est là qu'ils vont... Ça prouve aussi qu'on marque des points. C'est un peu la guerre.
Encore un mot, je voulais qu'on parle d'archives, j'avais envie qu'on en parle longuement et en fait on n'a plus beaucoup de temps, mais voilà, vous militez depuis plusieurs années au sein du groupe des archives LGBTQIA, même si cette soupe alphabétique
est elle a son utilité aussi.
Vous vous battez pour la création d'un lieu, mais plus qu'un lieu d'ailleurs, où seraient regroupées toutes les archives des mouvements militants LGBT. Pour résumer, le débat il a été relancé suite à la sortie du film 120 battements par minute, parce que ça a permis de se questionner sur qui avait accès aux archives d'ACT UP. Il y a une certaine forme de violence administrative qui a été constatée, parce que quand on n'est pas historien, historienne, c'est plus compliqué d'aller consulter ces vieux documents. Et donc vous, vous dites qu'il faut chercher qu'il faut créer des archives vives ou vivantes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait ça?
Alors, ça va vous plaire, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les créations d'archives, les premières qu'on a faites, en fait, c'est des podcasts. Donc, quand même intéressant de voir comment le podcast. Non, ce qui est... Alors, pour aller vite sur cette histoire, mais on pourra en parler pendant des heures, j'ai pas envie de revenir sur la violence archivale, tout ce qu'a bien décrit Derrida, la violence des archontes, mais on l'a subi très fort de la part de la mairie de Paris et de la part des archives nationales, quand même, ça fait 3 ans que ça dure, qu'ils nous prennent pour des oseaux, et qui voulaient, qui voulaient pas qu'on fasse un centre d'archives autonome et communautaire. Comme c'est le cas pour tous les centres d'archives LGBTQI dans le monde, mais aussi la Maison des Cultures arméniennes, avec qui d'ailleurs on travaille, parce qu'on apprend des choses avec eux, etc. Alors, donc il y a ce modèle de l'archive institutionnelle, etc., qui par ailleurs ne sépare tout, donc ce qui est arrivé à ACT UP, eux ils prennent que les documents, les objets ça va au musée, les livres ça va dans les bibliothèques, enfin, de la dislocation en permanence. Et l'autre truc important, mais pour les archives féministes, pour les archives LGBTQI minoritaires, on revient sur la question de la minorité, c'est l'archive orale. Mais c'est aussi de comprendre que vous, moi, demain, nous, on produit de l'archive. On en produit tout le temps. Moi, j'ai compris ça, que les gens font de l'archive comme ils font le sexe. Ils trouvent toujours un moment d'en faire. Ils en ont toujours à la maison, ils en ont toujours à la cave. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et à un moment, on va leur dire « Ah, vous savez, attention, les archives, là, ça vaut rien, ça vaut. » Et là, attention, les gants blancs, l'hydrométrie, on les prend chez nous, ça part aux archives nationales, c'est terminé. Non. Il y a une force archivale, on nous en dépossède. Donc comment est-ce qu'on peut, en fait, ne pas la perdre? C'est ça l'idée. Et quand on voit des choses comme ça, ça devient très intéressant, parce qu'on comprend aussi qu'on nous a mis dans une temporalité de l'archive. Bah déjà, l'archive, il vaut mieux que les gens soient morts. C'est un truc, les historiens, c'est des croque-morts, pas tous. Enfin, ils arrivent quand même après que les gens soient morts, et puis c'est là que ça prend de la valeur, et que, etc., etc. Non, les archives, c'est là maintenant. On est dans la temporalité des archives. On doit nous éviter la dislocation temporelle dans laquelle ils veulent nous mettre. Donc on resynchronise. Et d'ailleurs, quand on fait de l'archive orale, les gens disent, il y a un petit doute. Il y a eu le doute avec les podcasts. Oui, mais ça, c'est de la radio, c'est pas de l'archive, parce qu'il n'y avait pas ce vernis.
Il n'y avait pas de poussière.
Il n'y a pas la poussière, il n'y a pas la dilatation temporelle, il n'y a pas le truc vieux, il n'y a pas le truc. Il y a même un soupçon que nous-mêmes, on les produit de manière performative et que donc on n'est pas objectif, parce que l'archive, c'est pour les historiens qui vont écrire, etc. Ben non. Donc, je crois que vraiment, là, on n'a pas de lieu. On va voir ce qui va se passer. Je ne veux pas revenir sur la mairie de Paris, mais là, au boulot, quoi. Mais on peut faire de l'archive. On est des foyers d'archives. Alors, il y a une incomplétude incroyable, évidemment, pour les personnes, pour les minoritaires, pour les femmes. Elles sont effacées aux archives nationales. Parce que aux archives nationales, vous ne serez jamais indexées, vous ne serez jamais traitées. Il y aura peut-être un historien qui va venir, etc. Non, vous êtes mort là-bas. C'est le trou noir. Mais l'incomplétude de l'archive, personne ne sait. Il n'y a pas de vérité de l'archive. Donc demain, si vous interviewez 15 personnes pour dire ça, c'est un foyer d'archives, et que vous leur apprenez à faire des archives, ou que demain on coproduit comme on le fait des archives avec les putes, ben on fait l'archive.
Ben ouais.
L'incomplétude, elle existe, mais elle nous appartient. Et après, et c'est la magie, c'est même pas la magie, c'est que ce qu'on fait avec les podcasts, on fait un truc que ne veulent pas faire les archives nationales. Nous, ou les archives institutionnelles, on va dire. On remet en circulation tout de suite.
La circulation des savoirs,
La boucle.
Ouais.
Et on peut faire de l'archive avec la performance aussi. Par exemple, il y a beaucoup de recueils d'archives où on va chercher, on fait de ce qu'on appelle l'histoire orale, on va voir les gens. Demain, on peut apprendre. On peut apprendre à toutes les personnes qui sont présentes ici. Ça s'apprend à faire un entretien, d'archives orales. Bon. Mais on peut aussi, par exemple, prendre ces archives. Et puis, il y a eu un projet qui s'est vu comme ça en Écosse, un projet LGBT, et dire, bon, ben, on va les mettre sur scène. Et puis, ou dans le village où on a fait, par exemple, la collecte, on va faire un spectacle. Et après, les gens, non seulement le spectacle de performance d'archives circule, mais génère d'autres archives.
Génère d'autres.
Et là, c'est pas la mythologie de l'horizontalité, mais les gens en plus comprennent non seulement qu'ils ont des pratiques d'archives, qu'ils peuvent les produire, et surtout qu'il y a plein de pratiques d'archives. Act Up, à un moment donné, ils avaient besoin qu'il y ait des archives pour militer, notamment sur l'expertise médicale. Donc on ne les envoie pas, ça c'est les militants, pour la lutte, ils ont besoin d'archives. Mais là, pour que des gens viennent, ils apprennent la lutte. C'est l'école des luttes, les archives, etc. etc., etc., etc. Ouais. Donc il y a une multitude d'usages des archives, multitude de publics, parce que bon, les historiens, ils trouvent toujours le chemin. Mais les historiens ne sont pas très honnêtes. Parce que souvent, ils font beaucoup, beaucoup de recueils de ce qu'ils appellent le terrain. Il n'y a pas que les historiens, les sociologues, les anthropologues. Ils n'ont pas parlé aux gens dans une perspective d'archives, par exemple. Donc, en fait, ils génèrent de l'archive dormante et morte. Et donc, nous, on essaie de faire tout un travail aussi, comme ça, de réactivation des terrains des sciences sociales.
Wow.
Où ils ont capturé des récits de vie, finalement. Mais il suffirait, par exemple, de faire un protocole éthique. En France, il n'y a jamais de protocole quand on fait de la recherche. Je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, on va voir les gens. Et on extrait, on vampirise. Il suffirait de dire. Et aussi que les gens aient cette culture. Bon, on va faire quelque chose ensemble. D'abord, les verbatims, vous me les envoyez. Je peux retirer ce que je dis quand je veux. Et à quoi ça va servir à la communauté ou aux gens? Et est-ce qu'on peut faire un protocole en amont qui intègre l'hypothèse archivale? Ça change tout.
Mais oui, bien sûr.
Ça change tout.
Mmh. Ouais.
Donc, je là-dessus, voilà.
Ouais. Non, mais cette question des archives, elle me passionne. Elle revient très souvent dans l'émission.
Ah bah oui, je comprends.
On en a parlé avec Camille Morino quand elle avait monté l'exposition, elle, à Centre Pompidou. Elle s'était rendue compte que ce qui concernait les peintres femmes, les peintres et artistes femmes, étaient beaucoup moins bien conservés dans les musées que ce qui concernait les peintres et artistes hommes. Voilà, on en a parlé avec Lydia Pavard sur les archives de l'IVG qui allaient partir au broyeur alors que c'était des données fondamentales sur la santé des femmes.
Bien sûr.
Bref, et moi, avec ce podcast, podcast, j'ai la conscience depuis le début de faire des archives, j'ai envie que ça reste. Enfin, j'espère peut-être les donner à une bibliothèque un jour, j'en sais rien, même avant ma mort. Sam Bourcier, c'est pour quand la révolution?
Alors ça, c'est une question, moi, comment dire, il y a des gens qui disent un peu qu'ils sont la révolution tous les matins, il y a des gens, moi j'aime, c'est compliqué parce que des fois c'est un discours un peu avant-gardiste, je n'aime pas quand c'est un discours avant-gardiste, élitiste, exceptionnaliste, trop moderniste, voilà, où il y a des leaders, où il y a des figures, où c'est personnalisé, ça j'y crois pas. En fait, j'arrive à une conclusion, puis avant moi, j'avais du mal avec cette histoire de révolution, comment dire, le grand soir, enfin. Et puis maintenant, je crois que j'ai compris une chose qui est un peu réjouissante, mais pas que. C'est que la révolution dont on parle, c'est pas qu'elle a déjà eu lieu, c'est qu'elle est là depuis les années 60.
On est dedans.
Et la preuve, c'est qu'elle a été méga réprimée, quoi. Alors oui, c'est 68. C'est aussi tout l'automne 69 en Italie, où là, les gens, en Italie, je crois qu'ils sont allés très loin dans l'autonomie, dans les formes de vie, mais c'est ce que produisent aussi les collectifs queer et antiféministes. Parce que s'ils ne font pas la politique des droits, là, par exemple, en ce moment, ils sont en train de faire de la solidarité, de se demander comment, par exemple, les travailleurs du sexe peuvent même se reproduire, c'est-à-dire manger, quoi. Et ils le font, à la mutinerie à deux pas d'ici, avec Acceptesté, avec le syndicat des travailleurs du sexe, avec les queers. Eh ben, il se passe quelque chose qui s'est passé avec Martha P. Johnson et Starr, Stonewall, etc. Donc, je pense qu'on y est. Et puis, en face de nous, là, on a une espèce de contre-révolution, parce que c'est ça, le néolibéralisme. C'est pour ça que Macron a appelé son bouquin « Révolution ».
C'est clair.
On a une contre-révolution autoritaire fasciste. Oui, elle est fasciste. Oui, c'est la même chose que Bolsonaro. C'est la même chose que... Et en plus, le travail politique, les affinités entre le néolibéralisme et le fascisme, elles sont là depuis très longtemps. Enfin, les ordo-libéraux, enfin les Milton, Friedman, etc., ils ont fait tout un laboratoire déjà de tout ça en Amérique latine. Ils l'ont déjà fait. Donc comment on se sort de ça? Donc il y a de la révolution, de la contre-révolution. Ben, en s'organisant, en essayant de créer aussi des formes de vie, mais même de subsistance et de survie, et voilà. Donc c'est une révolution un peu modeste, mais je pense qu'il faut qu'elle est là. Ça veut dire aussi qu'elle existe. Ça veut dire aussi que bon, on peut faire ce qu'on est en train de faire quand même au niveau toutes les minorités, évidemment. En plus, elles n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. Donc moi, je dirais que je pense que c'est ça la révolution. Malheureusement, on n'est pas On communique avec la terre entière, avec les réseaux sociaux, etc., mais on n'est pas organisé comme il faut, on n'est pas l'international communiste. Alors après, moi, honnêtement, ce qui m'a effrayé aussi, comme tout le monde, enfin, dans les manifs, etc., c'est que, ben oui, la répression, elle est...
Ça tape fort.
Et ça tape, pourquoi? C'est parce qu'avant, on pensait que, voilà, le capitalisme, les néolibéraux, ils passaient au-dessus de l'État, ils étaient transnationaux. Non, ils prennent l'État qui a pris la forme d'une entreprise. Et comme ils mettent une pression hallucinante sur nous, sur tous les corps, ils ont besoin de la police pour taper. C'est pour ça que la police est violente. Bon, déjà, en général, la police est violente, ça va, systémiquement. Mais là, en fait, elle devient quasiment militaire. Elle nous tape.
Ouais. Ça fait peur. Bon, on va rester sur peut-être l'espoir, sur les archives, je sais pas.
Ben, il se passera forcément quelque chose, parce que les gens, quand même, justement, là, ont des désirs en commun, quand même, et,
ouais.
c'est une nécessité.
Il y a des colères
c'est pas,
qui
c'est
se
pas
rejoignent.
Un truc esthétique, c'est, ouais. c'est une nécessité politique. Donc.
Ouais. Merci infiniment, Sam Bourcier, j'étais tellement heureuse de pouvoir échanger avec vous.
Moi aussi.
Merci à Sam Bourcier d'être venu faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook... La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite. Prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.